Willkommen, bienvenue, welcome dans les Midi de Culture à 13h. Comme promis, on discutera avec Jordi Savall, mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier pour le Pôle Culture.
Bonjour à tous. Le syndicat des musiques actuelles vient de faire paraître une cartographie inquiétante qui démontre la concentration entre les mains de 6 grands groupes seulement de tout le secteur musical, du disque au festival. Alors comment conserver une liberté de programmation? Comment les festivals indépendants peuvent-ils survivre? Et quid des subventions publiques? Les conséquences concrètes de cette oligopole, c'est le dossier du Point Culture du jour. Stéphane Kranelski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du festival Les Suds à Arles et président du syndicat des musiques actuelles. Le syndicat, justement, vient de faire paraître une cartographie qui montre à tous la concentration aux mains des grandes fortunes du secteur musical. Alors peut-être pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est important d'informer le public de cet oligopole ?
Alors, le phénomène n'est pas complètement nouveau. Cet oligopole, comme vous le décrivez, en tout cas, ces acteurs exogènes, finalement, au secteur de la culture, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est de comprendre que dans la culture, désormais, il y a des puissances, des groupes qui investissent massivement dans l'ensemble de la chaîne de valeur, et depuis quelques années maintenant, dans les festivals également. Donc, ce phénomène n'est pas nouveau. Néanmoins, il intervient aujourd'hui dans un temps, dans un moment où les festivals indépendants sont extrêmement fragiles du fait de l'évolution de leur modèle économique et la résistance, leur capacité à résister à l'arrivée ou à la montée en puissance de festivals portés par ces groupes, eh bien, elle est plus que jamais questionnable.
Mais alors, qui sont ces grandes fortunes? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms?
Oui, bien sûr. Alors, dans les grands groupes qui sont présents sur le champ de la culture et désormais dans celui des festivals, eh bien, il y a depuis longtemps maintenant un groupe comme Live Nation. Il y a eu, mais il est en train de se retirer, le groupe de Vincent Bolloré, Vivendi. Il y a également AEG, mais nous avons Marc Ladret de la Charrière. Nous avons également la famille Arnaud ou la famille Bailey par l'intermédiaire du groupe de la Dépêche. Et puis, nous avons aussi Mathieu Pigas, par exemple.
Mais alors, ce qui semble étonnant, c'est que pourquoi ces entreprises qui sont par essence intéressées par le profit s'intéressent justement à des festivals qui ne sont pas rentables, on le sait bien?
Alors, je vous le confirme, ils ne sont pas rentables. Ils ne sont pas rentables. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des stratégies de 360, voire même de 720. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui ont pour habitude à la fois de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et dans le cas de la culture, donc on parle de groupes qui sont à la fois présents dans le disque, dans la production artistique, qui possèdent des salles, aussi et beaucoup et surtout, je dirais, des solutions de billetterie. Voilà, donc ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur et leur modèle, il est fondé là-dessus. Un autre aspect qu'on peut observer, c'est celui de la réplication. Un groupe comme Live Nation va répliquer un modèle de festival qu'il a implanté aux États-Unis, en Belgique ou je ne sais où. Voilà, donc on est sur cette capacité à mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur pour un seul projet, pour un festival, pour un réseau de festivals, et puis sur l'idée de répliquer finalement des recettes qui ont déjà été éprouvées.
Mais ça a quelles conséquences de maîtriser la chaîne de valeur? Est-ce que au final, le spectateur de festival va devoir payer plus cher son billet? Qu'est-ce que ça leur apporte de maîtriser tout ça?
Et effectivement, ce que l'on peut constater, c'est que dans d'autres pays, si on observe la situation en Belgique ou en Angleterre par exemple, à terme, les festivals indépendants, du fait de la fragilité de leur modèle, et c'est là nous, notre sujet, il est là finalement, c'est de savoir comment est-ce que l'on protège ces festivals indépendants qui sont les garants de la diversité. Eh bien, ils n'ont pas pu résister à l'arrivée de ces opérateurs qui avaient un accès privilégié à certains artistes, qui avaient un accès privilégié aux données, qui ont un accès privilégié à tout un réseau de diffusion et de distribution et de communication, parce que bien souvent, on a affaire à des groupes qui maîtrisent également des médias, qui ont également dans leur escarcelle des médias et qui donc sont prescripteurs. Donc voilà, finalement, la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment, collectivement, on arrive à protéger ce système, ce maillage, parce qu'on parle là de centaines, voire de milliers de festivals, finalement, de musique indépendante, de l'arrivée de ces groupes. Et c'est ce qui nous importe, effectivement, de faire comprendre à la fois au grand public, mais aussi, eh bien, aux décideurs, aux partenaires publics, aux artistes aussi. Enfin, voilà. L'objectif de cette carte, c'est vraiment de communiquer largement pour sensibiliser aux enjeux de cette transformation, finalement, du paysage culturel.
Quand vous parliez de duplication, ce qui fait un peu peur aussi, c'est qu'on a l'impression que finalement, on va se retrouver avec des festivals qui se ressemblent et donc avec une perte et de diversité et puis aussi, j'imagine, une moindre visibilité pour des artistes émergents qui ne sont pas encore des têtes d'affiche qui vont faire venir le public.
C'est un peu ce qui nous inquiète effectivement. Nous, à terme, c'est ce que l'on craint, puisque le but étant, comme vous l'avez rappelé, d'arriver à au moins un équilibre économique, si ce n'est de dégager des marges, quid de la prise de risque, finalement, tout simplement. Or, nos festivals ont fondé leur légitimité sur cette prise de risque, sur le fait d'amener les spectateurs à découvrir de nouveaux artistes et de faire émerger ces artistes.
Quand vous parliez aussi de ces grandes fortunes, vous avez cité Bolloré, même si en effet il est en train de se retirer quelque peu. Est-ce qu'on a une crainte, même au sujet de la programmation? On se souvient quand il avait réagi fortement sur les médias qui le concernent, sur Zao de Sagazan par exemple, qui avait pris la parole contre lui. Est-ce qu'il y a des tensions au niveau de la programmation, que certains artistes sont plus à même de venir jouer dans les festivals que d'autres, qui ne rentreraient pas dans les codes de ces grands groupes-là?
Oui, en tout cas, la question, elle est obligatoirement à poser, forcément. Quand on voit que derrière Vivendi, il y a Bolloré, que Bolloré a ce projet politique que l'on connaît, quand on voit que derrière AEG, il y a Philippe Anschutz, qui lui est un fervent supporter de Donald Trump également. Donc voilà, quand bien même il possède et promeut le festival le plus cool du monde, qui est Coachella, la question est on doit se la poser. On doit se la poser maintenant. Parce que le mouvement auquel on assiste, finalement, c'est une sorte de tentative de maîtrise de cette fabrique de l'opinion. Quand on parle du spectacle vivant, les festivals font partie du spectacle vivant et procèdent à cette fabrique de l'opinion, ou des médias, ou de l'édition. Voilà, on voit bien qu'il y a une tentative, ou tout au moins un mouvement qui doit nous interroger sur les intentions qu'il y a derrière cette prise de pouvoir, je dirais, et qui ne peut être résumé à simplement des objectifs économiques.
Il y a un autre paradoxe dans cette étude, il me semble en tout cas, c'est comment on peut justifier que des festivals indépendants voient leurs subventions publiques s'effondrer, ce qu'on a vu ces derniers temps, alors même que ces subventions-là sont parfois maintenues quand on parle de festivals portés par des grands groupes.
Oui, mais ça, pour le coup, c'est aussi à nous de faire ce travail, de réexpliquer les fondements de ce qu'est l'action ou la politique publique de la culture, finalement. C'est bien de ça dont il s'agit, puisque quand on est un festival indépendant, je prends l'exemple des Suds, on travaille tout au long de l'année, sur tout le territoire, à travers une action culturelle. On essaye, en tout cas, d'être structurant pour ce territoire et pour la filière. On a vraiment cette action-là. Mais peut-être aussi a-t-on eu le tort de se laisser enfermer dans des évaluations quantitatives de nos actions, c'est-à-dire que plutôt que de communiquer sur le lien social qu'on fabrique par le biais de notre action, par le biais du bénévolat, par le biais de je ne sais, eh bien on s'est laissé évaluer simplement à l'aune de chiffres de fréquentation ou à l'aune de nombre de concerts qu'on produisait. Voilà, donc là il y a peut-être effectivement à notre niveau aussi un travail à faire pour faire comprendre et rétablir la confiance et le lien avec notamment des décideurs politiques pour qu'ils ne réduisent plus les festival à des simples outils de marketing territorial.
Bien, merci beaucoup Stéphane Krasniewski. Je rappelle que votre cartographie est visible sur le site du syndicat et qu'on la mettra également en lien sur la page du Point Culture. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, deux galeries quittent le nouveau pôle culturel de Romainville.
Oui, les galeries Jocelyn Wolff et Vincent Sator vont accueillir leur dernière exposition avant de déménager. Elles étaient intégrées à un ambitieux pôle dédié à la culture en Seine-Saint-Denis, imaginé par la fondation Fimenco en 2019. Les galeries qui s'y sont installées ont connu des déboires, problèmes d'échangéité, de chauffage, de connexion internet ou même de contrefaçon, au point qu'elles avaient intenté un procès au groupe Fimenco. Les galeries Air de Paris, Fabienne Leclerc et 22,48 mètres carrés, elles, restent sur place en attendant que les 1000 mètres carrés laissés vacants soient à nouveau occupés.
Marché de l'art, toujours la sculpture animalière se porte bien.
Très bien, même sur les marchés, puisqu'une table bar de François-Xavier Lalanne, intitulée « Bar aux autruches » et représentant les deux oiseaux sculptés en porcelaine, a été vendue 11 millions d'euros aux enchères la semaine dernière à Paris. Un nouveau record pour l'artiste. Force est de constater que le prix des sculptures représentant des animaux progresse depuis 25 ans. D'abord produite en série, la sculpture animalière a émergé sous la monarchie de Juillet au 19e siècle, avant de faire l'objet de véritables œuvres d'art. Les pièces du premier tiers du XXe siècle, comme celles de François Pompon ou Édouard Marcel Sandoz, comptent parmi les plus recherchées.
Merci Marie, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.